grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maundi
chenne biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 16 octobre 2014. Bienvenue à ce grand dialogue. Le grand dialogue d'aujourd'hui vous parle du crime organisé. Si ce crime organisé menace le Mali, c'est donc la question qui sera débattue dans cette émission. Et les thèmes que nous allons débattre sont comment se traduit le crime organisé, sera donc la thématique débattue dans la première partie, les facteurs du développement des trafics au Mali, la deuxième phase et la troisième phase. La mafia peut-elle remplacer l'État défaillant? Alors pour débattre de ces questions, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Boukari Sangaré, assistant de recherche à l'Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique. Nous aurons également, si tout va bien, Abdoulaye Sidibé, expert, et Valérie Nanabao du CICR. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique. Studio Tamani. Les chefs mafieux se sont substitués à l'État en prenant en charge parfois les frais médicaux et alimentaires des populations locales. Ce rôle de Robin des Bois peut-il remplacer l'État défaillant, le trafic traditionnel de cigarettes, de carburant, etc. Ceci disparaît donc aujourd'hui en laissant la place à une véritable industrie criminelle. Trafic d'armes, de drogue et le plus lucratif, les prises d'otages dans le Nord. Un séminaire vient donc de s'achever sur la question à Bamako, sur le crime organisé et le studio Tamani ouvre le débat sur la question. La première partie donc est consacrée à cette question. Comment se traduit le crime organisé? Ousmane Cornio, bonjour, vous êtes au téléphone.
Oui, bonjour, comment ça?
Alors, une rencontre vient de s'achever sur cette question, une question qui n'est pas d'habitude débattue ici au studio Tamani, mais tous les contours nous intéressent. Alors, merci encore une fois pour votre disponibilité qui ne fait pas défaut ici à Tamani. Cette question donc, comment se traduit le crime organisé, Ousmane Cornio?
Oui, vous savez, le crime organisé, c'est un ensemble de phénomènes qui se développent dans un environnement, et surtout quand un environnement est défaillant. Sous une forme ou une autre, elle a toujours existé dans les sociétés, mais à partir d'un certain seuil, elle commence à devenir dangereuse à partir de trois seuils. Et ces sont relatifs à deux éléments, c'est-à-dire la forme du crime et puis l'ampleur du crime. Par exemple, par rapport à la forme du crime, le crime organisé commence à devenir dangereux quand il commence à infiltrer la gouvernance, c'est-à-dire infiltrer les gouvernants, les autorités, donc la gouvernance sécuritaire, la gouvernance administrative, un système de corruption d'intérêt, c'est-à-dire entraîner même les autorités. Quand on prend le cas du Mali, au Nord, le trafic de drogue, le trafic d'armes et tout ça, avait complètement impliqué et les préfets, les sous-préfets, mes sujets, si je les accuse, mais c'était une réalité, les autorités militaires, et qui fait que quand vous arrêtez quelqu'un au Nord, ils étaient capables d'appeler même au sommet de l'État pour te faire libérer.
Ça veut dire que le crime qui se passe au Nord, il y a une connexion donc avec le Sud.
Voilà, ça commence à devenir dangereux si déjà la connexion s'infiltre dans le système de gouvernance. C'est-à-dire que nous avons des gouvernants et des autorités administratives qui sont impliquées dans les réseaux. Et ça, deuxième moment, ça commence à devenir dangereux quand ça touche le système de développement. C'est-à-dire le système de développement, c'est-à-dire que c'est une activité dans laquelle les gens s'enrichissent et très vite, très rapidement et très facilement, à tel point que les gens vont commencer à envier les acteurs du crime organisé et ne croiront plus à un système de développement organisé. Donc, tout le monde s'y met dans cette activité. Et on ne croit plus au processus de développement, au projet de développement, aux activités et aux entreprises. Et quand on voit, par exemple, le cas du Mali, et on sait, à Garo, à Sidel, il y a ce qu'on appelle des quartiers cocaïne. Des jeunes de moins de 30 ans autour de 25 ans qui construisent des buildings, qui ont de grosses voitures, tout ça. On sait comment ils les ont. Et ça, ça entraîne et les jeunes et ça décourage ceux qui veulent travailler et pour avoir. Donc, ça devient inquiétant si ça atteint ce seuil. Troisièmement, il y a une autre seuil, c'est quand au niveau de l'ampleur, un certain nombre, généralement dans ces activités, je l'ai trouvé qu'elle était réservée à un groupe de personnes. Et quand, avec les résultats, d'autres personnes commencent à les envier et que d'autres acteurs regagnent les anciens, il y a une certaine, un problème de leadership pour le contrôle des circuits, pour le contrôle des pistes, pour le contrôle des secteurs. Et ceci va entraîner plus ou moins des problèmes de conflits internes au sein des communautés. C'est le cas, par exemple, du Nord, le trafic de drogue, on sait que c'était l'affaire vraiment des Arabes. Et pas tous les Arabes, aussi quelques groupes d'Arabes. Mais après, tous les Arabes se mettent là-dedans. Ensuite, c'est les Touaregs aussi qui se mettent là-dedans. Ensuite, on va retomber.
Finalement, ça devient un engrenage.
Voilà. Merci. Un engrenage, donc ça devient dangereux.
Merci beaucoup.
Ça devient dangereux.
Merci.
Sinon, en dehors de ces trois seuils, le crime sous cette forme-là a toujours existé dans une forme de substitution à l'État, c'est-à-dire une forme d'économie locale, de débrouillardise des jeunes.
C'est un peu comme je l'ai dit dans l'introduction, hein, les chefs mafieux se substituent aujourd'hui à l'État. C'est le constat des experts. Nous ne commentons pas ce que nous disons est dénué de tout commentaire, mais tout simplement c'est le constat aujourd'hui des experts lors de ce séminaire. Les chefs mafieux se sont substitués à l'État en prenant en charge parfois les frais médicaux et alimentaires des populations locales. Ce rôle de Robin des Bois, comme je l'ai dit, peut-il remplacer l'État défaillant Boukari Sangaré? Vous êtes assistant de recherche à l'Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique.
Merci beaucoup, M. Sidibé. Comme vous venez de le dire, je suis Boukari Sangaré. Je suis assistant de recherche à l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, mais également consultant anthropologue. Je suis étudiant PhD aussi à l'université de Leiden aux Pays-Bas en co-tutelle avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc l'Alliance, c'est vraiment la grande famille, c'est là où nous sommes depuis 2009. Donc par rapport à la question, est-ce que les groupes mafieux peuvent-ils se substituer à l'État? Je dirais oui. D'ailleurs, quand on observe ce qui se passe en Amérique latine aujourd'hui, au Mexique et dans certains pays, on constate
ce système existe-t-il vraiment au Mali?
Je dirais oui. Et ça serait bien que je donne peut-être mon opinion sur les crimes organisés. C'est-à-dire, il serait bien de baliser un peu la question des crimes organisés pour que nos auditeurs ne connaissent pas ce que c'est que les crimes organisés ou la criminalité organisée sachent réellement ce que c'est. Et j'ai eu le plaisir de faire des petites recherches par-ci par-là pour savoir réellement ce que c'est que les crimes organisés. Et j'ai retenu une définition qui a été donnée par l'Union européenne qui dit que les crimes organisés est le fait d'un groupe structuré ou des groupes structurés qui est établi ou qui sont établis dans le temps et agit de concert pour commettre des crimes en vue d'un avantage matériel ou financier. Et parmi ces crimes, vous avez les trafics de drogue, les trafics des armes, vous avez aussi le vol des véhicules, vous avez aussi la corruption ou le blanchiment d'argent qui sont en quelque sorte les corollaires de la criminalité organisée. Donc, en faisant les constats et en se référant à la question que vous venez de poser, je dirais que le crime organisé est une réalité au Mali, puisque quand vous prenez le nord du Mali, vous le savez autant que moi, c'est une zone où le trafic est très développé, le trafic des cigarettes, le trafic des drogues. Vous vous rappelez de l'avion Air Cocaïne qui a atterri dans le nord du Mali, entre Gao et Kidal. Donc, pour vous dire que c'est vraiment une réalité au Mali. Et donc, je reviens à la première question pour dire que si on ne fait pas attention, ces groupes peuvent se substituer à l'État. puisque, comme vous l'avez dit dans votre intervention, ces groupes sont auprès des populations et arrivent à satisfaire les besoins prioritaires des populations, c'est-à-dire les besoins en services de santé, les besoins en éducation et autres. Donc, si l'État est absent, finalement, ce sont ces gens-là qui vont se substituer à l'État. Et l'autre danger, c'est que même pendant les élections, c'est-à-dire on se rend compte que ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans cette économie illicite, et donc pendant les élections de base, les élections communales ou les députations, donc ils
peuvent
facilement les voix des gens, donc, et ça c'est vraiment très dangereux. Mmh. Voilà.
Alors, selon toujours le constat des experts, le vôtre, Ousmane Cornio, les auto-écoles poussent comme des champignons dans le nord du Mali, alors qu'il n'y a pratiquement pas de voitures dans certaines zones. Pourquoi un tel intérêt? On dit que ça peut toujours servir un permis de conduire, mais bon, y a-t-il d'autres intérêts en jeu, Ousmane Cornio? Vous êtes expert en sécurité.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est ça le deuxième seuil, là, c'est-à-dire en fait un système de développement parallèle et qui fait qu'il y a des activités illicites de blanchiment d'argent, de corruption, de trafic d'influence, et dont par exemple l'accompagnement des convois de drogue ou des convois de marchandises de trafic. Il va falloir non seulement trouver des véhicules, trouver des chauffeurs et trouver des personnes pour sécuriser. C'est pour ça d'ailleurs que lors de l'étude que nous avons faite sur la situation illicite des armes au Mali, on a constaté que, bien sûr, toutes les armes viennent du sud, mais toutes les armes convergent vers le nord. Et en ce temps, quand on faisait cette étude-là, il n'y avait pas de conflit au nord. On se posait la question, à quoi servaient ces armes-là? On s'est rendu compte que ces armes-là, c'était pour sécuriser un certain nombre d'activités, dont des activités de crime organisé. Donc ces jeunes qui vont... Et puis des jeunes en échec d'immigration qui veulent en Europe et qui sont à Gao, donc Kidal, tout ceci sont des proies à des activités de contrebande. Voilà pourquoi tout le monde a pas à conduire. Quand tu n'as pas à conduire là-bas, il ne peut qu'un jour que tu sois contacté pour que tu puisses conduire un véhicule. Alors, et accompagner un convoi de drogue, ça te rapporte peut-être deux ou trois fois plus que tu aurais dans un an si tu travaillais légalement.
Alors, trafic de drogue, de toutes sortes de marchandises prohibées, vers quelle destination finalement? Est-ce que ça va en Europe? Ça redescend vers, je ne sais pas, le sud? Où vont ces marchandises?
Oui, c'est ce que je dis, c'est ça un peu le paradoxe. C'est parce qu'en fait, c'est ça le paradoxe des crimes organisés tels le cas du Mali. En fait, la drogue, elle n'était pas consommée au Mali. Le tabac n'était pas consommé au Mali. Donc, l'espace malien est simplement utilisé comme était un espace de transit. Dans la mesure où nous ne contrôlons pas cet espace-là, donc les gens utilisent notre espace. Et on vient de parler de l'avion cocaïne. Peut-être que ce n'est pas le seul avion, mais il y a eu d'autres formes.
Alors, cet avion, juste une parenthèse, cet avion, c'était inscrit dans le registre des rumeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la véracité de cet avion-là? Est-ce qu'il a existé réellement?
L'avion est une réalité, mais la forme d'atterrissement de l'avion et tout ça, des enquêtes ont été menées. Bon, il y a eu des rapports qui ont été faits, mais je crois que les rapports et tout ça là, ça a coïncidé avec le pourrissement de la situation au Mali, à tel point que nous avons vraiment oublié cette histoire d'avion, dans la mesure où on avait d'autres choses encore plus graves, tout le nord était occupé. Mais ce qu'on sait, que ce soit l'avion ou autre forme, il y avait quand même une présence d'activités illicites, de trafic intense, pas à destination du Mali, mais le Mali était simplement utilisé dans sa partie septentrionale comme étant une zone non contrôlée dans laquelle on pouvait s'opérer et puis à destination. Ça même chose pour les otages.
Alors Ousmane Cornio, vous connaissez les règles de cette émission. J'espère que vous avez une montre. Il est 30 et nous allons observer 2 secondes de pause avant de poursuivre cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
les réseaux sociaux Studio Tamani avec notre page Facebook Studio Tamani et également Twitter, sans oublier notre site web www.studiotamani.org où vous pouvez visiter toutes nos productions, y compris ce débat, écouter ce débat en direct. Alors, nous parlons aujourd'hui du crime organisé au Mali. Est-ce que cela menace l'État malien? Alors, pour parler de cette thématique, nous avons comme invité Ousmane Cornio, spécialiste en sécurité, et Boukari Sangaré, assistant de recherche à l'Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique, également consultant. Alors, nous avons nous sommes donc à cette deuxième partie du débat, les facteurs du développement des trafics au Mali. Alors, Ousmane Cornio, juste avant d'entamer cette deuxième partie, je vous laisse terminer ce que vous avez commencé concernant justement cet avion Air Cocaïne.
Oui, j'ai dit que par rapport à l'avion Air Cocaïne, je crois qu'on a laissé tomber ça parce que dans la mesure où, quand les enquêtes étaient en cours et que les gens cherchaient à établir un peu les faits, bon, il y a eu des rapports qui ont été comparés, mais ça coïncidait avec le pourrissement de la situation au nord, que le nord a été envahi, de telle sorte qu'on avait encore des choses plus graves à débattre et à gérer au nord que cet avion. Mais maintenant, par rapport aux facteurs de développement, ces facteurs de développement, c'est vraiment un facteur, c'est le sous-développement, c'est la pauvreté. Et la pauvreté et le sous-développement dans cette partie septentrionale amène à la lutte pour la survie, surtout pour les jeunes désœuvrés, les jeunes diplômés sans emploi, qui disposent des armes. Certains ont disposé des armes à partir du sud, d'autres à partir de la Libye. Et donc, il s'agit uniquement d'utiliser le moyen dont ils disposent pour pouvoir assurer leur subsistance. Et qui fait que, comme on le disait dans ta première introduction, en l'absence de l'État et des faillants, en l'absence de toute forme de réponse aux besoins des populations, les populations sont obligées ils sont attirés par toute autre proposition, dont les gens de l'ACMI. L'ACMI, initialement, pour moi, à mon avis, n'était pas venu pour venir faire des trafics de la drogue ou autre chose. Mais en utilisant les jeunes, il fallait leur proposer quelque chose. On leur propose des activités dans lesquelles ils peuvent attirer la survie. Et leur survie et la survie de leurs parents.
Mmh. Merci beaucoup, Ousmane Cornio. Vous restez avec nous. La contrebande dans le nord du Mali et au Mali de façon générale ne date pas d'aujourd'hui. Quelle est la différence aujourd'hui entre la période précédant le conflit armé au Mali et cette période post-conflit Boukari Sangaré?
Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend la situation au Mali, depuis janvier 2012, nous sommes dans une crise sans précédent, comme on le dit. Et donc, à un moment donné, l'État était quasi absent dans les régions septentrionales du Nord. Et ce qui rend facile les activités, ça donne une opportunité aux criminels organisés de mener leurs activités, parce qu'avant il y avait quand même les forces de sécurité et de défense, la gendarmerie, la police qui pouvaient, ou même la douane qui pouvait facilement les identifier, les arrêter. Mais avec l'occupation, il y a eu des multitudes de groupes au nord, parmi lesquels les indépendantistes, les djihadistes, les terroristes. À un moment donné, on avait même du mal à identifier qui est qui. Et même aujourd'hui, les gens se posent la question qui est Menela, qui est Moujao. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la question de la criminalité organisée a pris de l'ampleur. Avant, c'était une réalité. Depuis les années 2000, c'était vraiment une réalité. Et comme ça a été dit par mon prédécesseur, le Mali, c'est vraiment un pays de transit. C'est pas un pays où la drogue est fortement consommée. Donc, nous avons une superficie de 1,241,238 km². Et quand vous prenez la zone septentrionale du Nord, c'est une très grande zone. Ça fait les deux tiers du territoire national. Et donc, il y a aussi un faible maillage du territoire par les forces armées de sécurité. Et je crois que l'État aussi est en quelque sorte coupable de ce fait, parce que quand on regarde les différents accords qui ont été signés dans le passé, les groupes rebelles avaient demandé à l'État
la démilitarisation,
etc. Et ça, ça contribue à favoriser les crimes organisés.
Alors, Ousmane Kornio, je le disais tout à l'heure, le trafic traditionnel qui se faisait dans le petit deal, c'est-à-dire cigarettes, carburant, etc., tout ceci disparaît aujourd'hui en laissant la place à une véritable industrie criminelle, trafic de drogue, d'armes, de prise d'otages. Alors justement, comment peut-on aujourd'hui déterminer l'ampleur du crime dans le nord du Mali?
Oui, vous savez, au nord du Mali, ce que nous vivons aujourd'hui, les gens croient que c'est la rébellion. Il n'y a pas de rébellion actuellement au nord. Il y a une occupation de fait par les acteurs de crime organisés. À mon avis, ceux qui se disent MNLA, Ansardine, Moujao, ce sont des groupes purement et carrément instrumentalisés par les narcotrafiquants pour pouvoir agir et contrôler l'espace. Et on le savait, avant qu'il n'y ait cette crise, la crise que nous avions, chaque fois qu'un événement se passait au nord, par exemple un enlèvement d'otages ou bien des attaques à main armée, il s'agissait par leur stratégie de pouvoir déconcentrer et divertir l'opinion afin d'agir. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a un convoi qui passe. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a une activité criminelle qui est en train de se réaliser. Mais pour pouvoir mieux opérer, il fallait alors complètement déstabiliser le secteur. Et c'est dans leur stratégie de déstabilisation que finalement, ils ont instrumentalisé les MLA pour demander à l'indépendance, instrumentalisé Ansardine pour demander la charia, instrumentalisé le Moujao pour s'imposer parfois la charia. Mais tout ça, je vous dis, c'est uniquement pour des intérêts mafieux et des intérêts narcotrafiquants. C'est du crime organisé qui a conduit le Mali à cette situation. Et c'est eux qui contrôlent encore. Moi, je ne dis pas que l'accord, par exemple, il a dit, les débats à Alger, les pourparlers à Alger, ne sont pas intéressants. Mais je ne pense pas que ce sont ceux avec qui on est en train de débattre à Alger qui sont vraiment les tenants de l'accord au nord du Mali. Je ne suis même pas sûr que si aujourd'hui on donnait l'indépendance à ces anciens, ils sont capables de les gérer dans la mesure où ils ne maîtrisent même pas, ils ne contrôlent même pas à 10 km de la ville de Kidal. Ils l'ont dit lors de notre un de nos
débats ici au studio.
Débats, voilà.
Alors, Boukari Sangaré, cette gouvernance, justement, est-ce que le Mali actuel a les moyens de reprendre pied en termes de gouvernance?
Merci beaucoup pour cette question et je pense qu'elle est très pertinente. C'est quand même une priorité du Mali aujourd'hui. Je dirais oui. Oui, dans le sens que le Mali aujourd'hui est engagé depuis l'élection du président de la République. Nous avons vu, il y a un programme qui a été élaboré et qui est en mise en œuvre, qui est le programme d'action gouvernementale. Et nous avons vu aussi la communauté internationale engagée auprès du Mali pour accompagner le Mali à se relever. Donc, mais pour que le Mali puisse se relever, il faut d'abord que l'État soit renforcé. Il faut donner à César ce qui appartient à César.
Comme
on le dit, il faut avoir un État fort, c'est-à-dire une armée forte, et que l'État soit présent sur tout le territoire national, et que l'État aussi puisse mener des actions de développement. Parce qu'il faut le dire, dans certaines localités, l'État est quasiment absent. Et c'est ce qui pousse les gens à s'allier aux djihadistes et aux autres.
Parce que n'ayant pas d'autres moyens.
Des alternatives. Donc, c'est pourquoi l'État doit être très fort et il faut que les partenaires comprennent cela en accompagnant l'État pour qu'il soit fort. Et voilà, pour pouvoir lutter contre ce fléau.
Alors, Ousmane Kornio, nous sommes toujours dans la gouvernance. En termes de sécurité, est-ce que cette gouvernance peut s'exprimer aujourd'hui à l'état actuel des choses? Si oui, comment doit-elle se produire sur le terrain?
Oui, moi je crois que vraiment le problème n'est pas un problème de présence de l'État au nord ou bien au sud, c'est un problème de gouvernance. Et quand les gens disaient que l'État était absent au nord, moi je n'étais pas d'avis. L'État était mal représenté, c'est-à-dire qu'en fait que les relations entre les populations et l'administration, que ce soit l'administration militaire, que ce soit l'administration civile, ces relations étaient tellement entachées de corruption, d'altercation, à tel point qu'en fait, l'État ne jouait plus son rôle. Je disais, ils avaient, c'était à justice. Et donnez-vous un exemple, à Gao ou à Kidal, on arrête un narcotrafic, on arrête un bandit, et un CB arrête un narcotrafiquant. Mais deux minutes plus tard, quelqu'un l'appelle de Bamako, du haut sommet de l'État, et il est libéré. Mais un tel agent, à qui sûrement on lui a proposé des centaines de millions pour le libérer, mais la prochaine fois là, et quand il va attraper quelqu'un, mais il ne va plus attendre, il prend son million et puis lui aussi, il se met dans le circuit. Donc, et les chefs traditionnels, et les autorités politiques locales, les élus locaux, et l'administration locale, et même les administrations militaires, tout le monde est rentré dans le circuit. L'État était dès le bien présent. Et je crois aujourd'hui, si on doit le faire, il ne s'agit pas simplement de retour de l'État, simplement, il s'agit d'une autre forme de présence de l'État, une autre forme de relation entre l'État et les populations, une autre forme de gouvernance de la situation de la mesure où les populations étaient plus ou moins découragées, ils attendaient une autre forme dans la mesure où, je vous donne un exemple, ça je suis vraiment mal, je le dis, mais le cœur serré lors d'une étude que j'ai faite sur le Nord, j'ai rencontré quelqu'un qui avait été qui est dans un centre, qui a été occupé pendant 10 mois, il me dit, écoutez, M. Cormion, je vais vous dire une chose. Vous savez que les 10 mois que j'ai suivis sous l'occupation des djihadistes, là, je les préférais à la présence de l'administration, de la mesure où mieux étaient les privations de liberté, et là aussi, c'est à juger. Quand on vous demande de prier, de couper le pantalon ou d'aller à la mosquée et tout ça, ça plaisait à certains, mais ça déplaisait à d'autres. Ça ne lui gênait pas, mais il trouvait qu'avec ces djihadistes-là, ils étaient plus à l'aise qu'avec l'administration. Vous voyez bien que ça, c'est très grave. Mmh. À tel point que certains, ils regrettent même le départ de ces djihadistes-là. Alors que nous, on croit qu'ils étaient opprimés. Ça veut dire que les gens, ils sont découragés de la forme de gouvernance. Donc, pour le moment, même si on avait à conquérir, si on reconquérait le Nord, il ne s'agit plus que l'État soit présent pour être présent. Il s'agit de revoir la forme de présence de l'État et les formes de relations de gestion et de gouvernance, vous savez, les relations entre les services techniques, entre l'administration, entre les services militaires et les populations pour les servir. Voilà.
Alors, Boukari Sangaré, vous êtes de l'Alliance, assistant de recherche à l'Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport au propos d'Ousmane Kanyo?
Okay. J'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit. Et je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut aussi revoir les relations qui ont existé entre l'État et les populations dans ces différentes localités. Et dans mon intervention, je disais que je suis chercheur. Et je me prétends être spécialiste de la situation de conflit dans le cercle de Douanza, puisque depuis 2009, je mène des recherches dans cette localité, dans cette zone. Et pendant la crise, je me suis rendu à plusieurs reprises dans le cercle et j'ai eu à écrire quelques articles sur comment les populations se sont repositionnées, les différentes communautés qui sont là-bas. Il y en a qui se sont repositionnées, qui ont pris position pour les indépendantistes. Il y en a qui ont dit, bon, nous, on est toujours du côté de l'État, on a toujours vécu avec l'administration publique, donc on ne va pas prendre position. Et il y en a qui n'avaient pas de bonnes relations avec l'État, comme par exemple les pasteurs nomades, qui étaient en quelque sorte isolés, qui, en voyant l'État, ils voient l'État sous la forme de la gendarmerie, des agents des eaux et forêts qui viennent les amender ou des gens qui viennent collecter des impôts. Donc, ils n'ont pas des services de santé, ni des services ni des écoles dans cette localité. Quand les djihadistes sont arrivés, tout de suite, bon, il y avait quand même des propositions meilleures. Donc, tout de suite, ils n'ont pas hésité, ils ont pris position pour les djihadistes. Donc, pour dire que que je suis tout à fait d'accord avec lui que l'État doit avoir et revoir sa
politique.
Sa politique ouais.
Alors nous allons observer 2 secondes de pause avant la troisième et dernière partie du débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Voilà, merci d'être des nôtres. Vous nous suivez grâce à l'une de nos 20 radios partenaires reparties un peu partout au Mali, dans les 8 régions du pays, dont 3 à Bamako, Guintan, Benkan et Liberté. Alors aujourd'hui, nous réfléchissons sur le crime organisé au Mali. Cette troisième partie est consacrée à la mafia. Peut-elle remplacer l'État défaillant dans le nord du Mali ainsi que dans les zones où l'État semble absent. Alors, pour débattre de ces questions, nous avons comme invité Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité. Nous avons également Boukari Sangaré, assistant de recherche. Et nous aurons certainement Abdoulaye Sidibé, expert, et également qui a participé à ce séminaire dont je parlais sur la criminalité, le crime organisé dans le pays. Alors, avant de l'avoir au téléphone, la mafia peut-elle remplacer l'État défaillant? Quelles sont les approches possibles aujourd'hui que l'État doit avoir pour réoccuper ces zones perdues, Ousmane Cornio? Ousmane Cornio?
Oui, je vous entends pas bien.
Alors, quelles sont les approches aujourd'hui que l'État doit avoir pour réoccuper ces zones perdues?
Oui, bon, pour le cas du Mali, actuellement, je crois que le problème se trouve à plusieurs niveaux. Nous avons le nord qui est toujours occupé, parce que ni l'administration, ni l'armée malienne n'est présente au nord. Donc, ça veut dire que l'espace est complètement libéré, et l'espace est complètement abandonné aux mains des narcotrafiquants, et qui font aujourd'hui ce qu'ils veulent. Et pendant l'opération Serval, on avait cru à justice les avoir désaxés, les avoir dispersés, mais on a constaté qu'ils sont en train de s'organiser, de se regrouper, et ce qui fait qu'on suit les attaques qui se passent tous les jours. Et je crois qu'il y a quand même d'abord à assurer la sécurité dans cette zone-là. Et cette sécurité, il faut l'assurer avec la présence de l'armée malienne pour le retour des populations. Donc les deux facteurs sont importants. Il faut d'abord la présence de l'armée malienne, le retour des populations. Et enfin, et tout ça doit être couvert par une sécurisation. Et cette sécurisation-là, c'est la même malienne appuyée par les forces étrangères, dont l'administration, dont l'opération Barkhane. Et c'est en cela, c'est après ça, tout ça qu'il faut essayer de voir. Et le combat contre les narcotrafiquants ne peut pas se faire sans les populations. Ça ne peut pas se faire sans les populations. Tant que les populations sont absentes, ben écoutez, il n'y a aucun autre enjeu. Il n'y a aucun indicateur, il n'y a aucun informateur. Or, la lutte contre ces narcotrafiquants, contre le crime organisé, repose essentiellement sur l'information. Or, l'information, les populations, elles le connaissent. Les populations, si elles sont sécurisées, elles sont rassurées, elles peuvent donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir débusquer, pour pouvoir arrêter et mettre au effort d'état de nuit de ces trafiquants. Et je crois qu'on doit aller d'abord vers la sécurisation générale de la zone, des populations, le retour des populations. Et ensemble, s'il y a un accord à Alger, qu'on se dise, bah, écoutez, et groupes rebelles, armées, et forces armées maliennes, et l'UNISMA, et Barkhane, désormais, nous avons tous un seul ennemi qui est le narcotrafic, qui est les djihadistes. Donc, les crimes organisés qui sévit, il faut éviter de combattre pour pouvoir avoir une appropriation de notre zone.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane Cornio. Vous restez avec nous. On me fait signe que nous avons en ligne Abdoulaye Sidibé. Abdoulaye Sidibé, bonjour. Abdoulaye Sidibé, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors, bonjour. Vous avez participé à ce séminaire dont je parlais tout à l'heure sur le crime organisé au Mali. Alors, les acteurs que nous avons depuis le début de cette émission conviennent du fait que aujourd'hui, c'est plutôt un problème de gouvernance dans le pays. Alors, est-ce que, ma question donc, faut-il aujourd'hui sevrer les administrations qui sont dans les différentes zones dont nous parlons du commandement de Bamako pour qu'il n'y ait plus de connexion comme il y a eu dans le passé?
Bon, d'abord, je partage parfaitement ce point de vue que la crise, c'est d'abord une crise de gouvernance. Mais je ne suis pas sûr que c'est vrai, ce serait la bonne formule, dans la mesure où est-ce que pensez-vous que en faisant une déconnexion, cela peut arranger les choses ou faire en sorte qu'il n'y ait plus de problèmes de crime organisé? Je n'en suis pas sûr. Je pense que si effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, on a un problème de gouvernance, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est véritablement d'analyser effectivement les causes profondes de ce problème et en quoi. Et c'est un problème de gouvernance. Alors, donc pour moi, la solution, je pense que j'ai écouté un peu Cornio, Ousmane Cornio, donc je suis parfaitement d'accord avec son analyse. Et c'est que, mais de l'autre côté, ce que je voulais ajouter pour compléter l'analyse de Cornio, et il faut que de plus en plus on comprenne que les populations à la base souvent sont acteurs dans ce processus, mais aussi ils sont victimes. Ça, on le voit de moins en moins. Ils sont carrément victimes parce que si effectivement certains profitent, comment est-ce qu'on appelle ça,
de l'absence.
Du fruit de la crime organisée, c'est-à-dire à travers l'argent facile qui circule, etc., etc. Mais de l'autre côté, et dès l'instant qu'il y a un blocage de ce circuit, et les premières victimes, c'est eux, dans la mesure où les communautés ou les petits jeunes qui sont entraînés dans ce processus se retournent contre les populations locales, les communautés qui sont à la base, pour les braquer lorsqu'ils vont, par exemple, dans les foires hebdomadaires, etc., etc. Ça, on a vu ça régulièrement, c'est très récurrent dans le cercle de Bouanzan, c'est très récurrent et dans le cercle de Tombouctou, etc., etc. Donc, je pense que le problème de gouvernance doit d'abord se poser la question suivante. Et comment faire en sorte qu'on puisse aider ces gouvernés à être acteurs dans le processus de gouvernance partagé ou légitime? Dans ce sens que, d'abord, il y ait une prise de conscience collective au niveau local pour mesurer d'abord les conséquences de cette crime organisée et de cette criminalité organisée sur les populations. Parce que le fait que ça profite à des gens, ça ce n'est qu'au niveau du court terme, très court terme. Mais sur le long terme ou sur le moyen terme, on voit bien que les premières victimes, c'est la population.
Alors ça devient un cercle vicieux.
Exactement.
Merci beaucoup Abdoulaye Sidibé. En quoi est-ce que cette rencontre qui s'est passée à Bamako sur le crime organisé, peut-elle faire bouger les choses, Boukari Sangaré?
Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Et je pense que cette réponse, disons, cette question devrait être posée aux organisateurs de la rencontre. Ils seraient mieux placés pour répondre. Nous avons participé en tant qu'experts, en tant que consultants. Mais je vais donner quand même mon avis là-dessus. Je pense que je déplore le fait que d'abord, lors de la rencontre, c'était juste des partenaires, les bailleurs de fonds qui étaient présents à la rencontre. Il y avait juste quelques bureaux, quelques ONG maliennes, trois ou quatre maximum. Donc, peut-être que dans le futur, c'est Alerte Internationale qui a eu organisé cette rencontre, va organiser d'autres forums ou d'autres workshops avec les populations à la base pour réellement discuter
pas
de la... l'État malien était présent à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais j'aimerais d'abord me poser une question par rapport à cette question de la criminalité organisée. Pour moi, on devrait d'abord se demander, est-ce que le crime organisé est vu comme une menace par les populations à la base? Puisque dans la définition que j'avais émise au début, j'avais dit que ça concerne les trafics, comme les trafics de cigarettes et des produits illicites. Bon, en quelque sorte, ça, c'est vraiment des activités qui sont menées par certaines communautés dans nos différentes régions. En l'occurrence, les opérateurs économiques, les commerçants, qui aussi jouent un rôle très important dans ces différentes sociétés. Des rôles de stabilisation économique, parce qu'ils jouent même, ils se substituent même aux banques dans ces différentes localités. Par exemple, ils prêtent de l'argent aux gens qui sont dans les besoins. Donc, est-ce que ces populations, au niveau de nos différentes régions, voient en la criminalité organisée une menace? Donc, il y a lieu d'abord que l'État fasse des actions de sensibilisation, l'État en partenariat avec la communauté internationale, pour expliquer aux populations, bon, en tout cas...
Ce que vous faites n'est pas recommandé.
N'est pas recommandé, et voilà, sensibiliser aussi les autres populations pour dire que, bon, ça crée une instabilité économique dans la localité, ça crée des tensions et autres, voilà.
Alors, est-ce que l'État lui-même est conscient de ce fait?
À mon avis, oui. Puisque je disais qu'on avait un représentant de l'État, en l'occurrence M. Ibrahim Diallo.
A-t-il les moyens aujourd'hui, cet État-là, pour changer la donne?
Non, je dirais non. Mais s'il prend conscience de la problématique ou de la menace des crimes organisés, il pourra dans le futur s'attaquer à la question. Mais aujourd'hui, nous avons pas mal de priorités, la reconquête des localités occupées, le renforcement des capacités des forces armées. Et donc, la lutte contre la criminalité organisée passe par toutes ces actions-là.
Voilà. Alors, comment faut-il sensibiliser aujourd'hui les populations, Abdoulaye Sidibé?
Alors, je pense que la population, la sensibilisation de la population, c'est d'abord... aller sur des bases très pragmatiques, très concrètes. Et d'abord, on a quelques exemples. Et comme je l'ai dit, lorsque, par exemple, les jeunes qui sont habitués à de l'argent facile qui provient de la criminalité organisée, à un moment donné, compte tenu du contexte, compte tenu du fait que cet argent, c'est-à-dire le circuit est coupé par quelque part, donc il n'y a plus d'argent facile, se retourne contre les communautés au niveau de leur sphère, au niveau d'une zone donnée. Et donc d'abord, ça c'est un premier aspect qu'il faut faire voir à ces gens. Donc ça c'est le premier point. Mais cela doit s'accompagner effectivement d'un appui de l'État. Parce que ce qu'il faut dire, il ne faut pas oublier, et je pense que la plupart des intervenants l'ont signalé, si la crime organisée a pu entraîner des communautés dedans, c'est pas par gaieté, c'est parce que ces gens également souffrent de la pauvreté. Ça, il faut le dire.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Abdoulaye Sidibé. Merci pour votre disponibilité à ce débat. Dernière question à Ousmane Cornio. Ousmane Cornio, est-ce que les populations seront réceptives à ces sensibilisations dont nous parlons?
Oui, je crois que les populations, désormais, elles doivent comprendre et apprendre que les choses ne seront plus comme elles étaient avant. Le Nord a été suffisamment imparti de la situation de la crise. Non seulement la gouvernance a impliqué un certain nombre de formes de refus même de l'autorité même locale qu'il faut restaurer. La crise a créé des conflits intercommunautaires et intracommunautaires autour du contrôle des circuits. C'est-à-dire que tous ces événements et toutes ces actions vont avoir un impact sur les relations intra- et intercommunautaires. Et je crois que la société civile doit pouvoir les accompagner dans leur nouvelle forme de résilience à intégrer l'impact de cette crise-là dans la mesure où on ne pourra plus vivre comme on le vivait avant.
Merci beaucoup.
Mais de vivre parallèlement en tenant compte
des nouvelles données.
Merci beaucoup Ousmane Cornio. Nous sommes donc à la fin de cette émission qui portait sur le crime organisé au Mali. Trois thématiques: comment se traduit le crime organisé, les facteurs du développement des trafics au Mali, la mafia peut-elle remplacer l'état défaillant. Ces questions ont été répondues par Ousmane Cornio, spécialiste des questions sécuritaires, également Boukari Sangaré, assistant de recherche à l'Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique, et Abdoulaye Sidibé, également expert. Tous ces experts ont participé à la rencontre qui vient de s'achever à Bamako sur le crime organisé. Je suis Famoussa Sidibé, Sekou Gadigo a réalisé cette émission. Salim Douara était à la technique. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.